France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le jeudi 9 mai. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran. Bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la mobilisation générale des fonctionnaires. Avant l'examen de la réforme à l'Assemblée, tous les syndicats appellent à la grève aujourd'hui dans les administrations, les écoles, les hôpitaux, le trésor public et les transports. On voit ça évidemment en détail, Agnès, après les autres titres.
Les européennes et la tendance verte qui se confirme dans le programme de La République en marche. Les bébés Erasmus qui parlent de l'Europe en ce 9 mai, journée de l'Europe. Les nouvelles sanctions américaines contre l'Iran et une finale de la Ligue des Champions 100% british après une nouvelle folle
voilà.
Soirée.
Voilà, les invités de France Inter ce matin. Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
7h50.
Un fidèle juppéiste, jusqu'à présent à Matignon, il était conseiller politique d'Édouard Philippe. Le voilà, candidat aux européennes, éligible pour La République En Marche. Et oui, un programme avec plus de verts, avec moins de frontières. Est-ce que c'est un changement de discours ou une modification d'ADN? Gilles Boyer sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure Alexandra. 8h20, dans un mois, les élèves de seconde devront avoir choisi le jeu d'options qui les conduiront vers le nouveau baccalauréat. Depuis que cette réforme a été mise en œuvre, beaucoup de questions ont surgi. On va les poser, on va en parler avec Pierre Mathieu. C'est lui qui a pensé ce nouveau bac. Il est dans le grand entretien de la matinale tout à l'heure, 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
France Inter.
Les discussions ont duré 15 mois, mais les syndicats estiment ne pas avoir été entendus, d'où pour la première fois depuis le début du quinquennat Macron, un appel commun des 9 syndicats de la fonction publique, 5,5 millions de fonctionnaires appelés à faire grève aujourd'hui, 150 manifestations dans l'Hexagone. Objectif, mettre la pression avant le début lundi de l'examen du projet de loi à l'Assemblée. Et ce que dénoncent particulièrement les syndicats, Delphine Simon, c'est le recours accru aux contractuels.
S'il préserve le statut des fonctionnaires, le texte crée une boîte à outils qui va faciliter le recours aux contractuels. Les syndicats ne seront plus systématiquement consultés sur la carrière des fonctionnaires. Pour Christian Grelier de Force Ouvrière, cela équivaut à les pousser vers la sortie.
Quand on dit rupture conventionnelle, indemnité de départ volontaire, détachement d'office, c'est un moyen détourné finalement peut-être d'arriver à supprimer 120 000 postes. Contrairement à ce que disait le président de la République.
Plus de contrats, cela équivaut à moins de services publics, estime Mylène Jacquot de la CFDT.
Dès lors que vous faites cohabiter des gens avec des statuts différents, des règles d'évolution de parcours professionnel, des règles de rémunération qui ne sont pas forcément les mêmes, il y a un vrai risque de déperdition de qualité des services publics.
D'autant plus paradoxal que le gouvernement vient de donner raison aux gilets jaunes qui veulent plus de services publics, relève Bernadette Groison de la FSU.
À un moment où le président est obligé de dire on va mettre plus de fonctionnaires sur le terrain. Nous craignons, nous, que ce projet de loi, à l'inverse, diminue les services publics.
Chez Solidaires, Bruno Collignon lance donc un appel à la mobilisation.
Les usagers et les usagères de ce pays, qu'ils portent ou non un gilet jaune, en tous les cas ceux qui croient dans les valeurs du service public, ne peuvent que se retrouver dans une action comme celle du 9 mai.
Les syndicats réclament le retrait du texte et Faux promet déjà une grève reconductible.
Réforme du bac, école de la confiance, les syndicats enseignants sont particulièrement mobilisés. Le ministère annonce 15% de grévistes dans le primaire aujourd'hui. Forte mobilisation attendue dans les hôpitaux alors que plusieurs services d'urgence sont déjà en grève. Moins de budget, moins de personnel, le quotidien est devenu insupportable. Témoignage d'un aide-soignant de l'hôpital de Chambéry recueilli par Annabelle Galotti.
Petit à petit, on doit rogner nos valeurs et c'est ça qui nous mais en épuisement professionnel parce que on a ces conflits de valeurs permanents, disant bah voilà, on sort du travail, on se dit bah voilà, on a fait du boulot de merde. Pour moi, m'asseoir sur un lit quand j'ai travaillé avec des gens qui ont des cancers, c'est on n'est pas juste là pour faire un soin technique. Et nous, des fois, on sent que le patient veut parler, mais nous, on voit que dans notre tête l'horloge elle tourne et qu'on a encore beaucoup de patients à faire et qu'il faut qu'on accélère quoi. Donc c'est une guerre permanente contre le temps, c'est une guerre permanente sur notre perte de valeur qui à terme ben nous dégoûte.
150 cortèges. Donc dans toute la France, à Paris, les manifestants rendez-vous à 14h, place d'Enfer Rochereau, pour rejoindre les Invalides. 150 euros en moyenne, c'est la somme que s'apprêtent à toucher les 3 700 000 retraités qui bénéficient de la suppression de la hausse de la CSG annoncée en décembre dernier. Le trop perçu de janvier à avril commence à être remboursé aujourd'hui par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
Il est 7h05, Agnès, un programme très vert pour La République En Marche aux européennes.
Le programme doit être présenté officiellement aujourd'hui, mais les grandes lignes ont été dévoilées hier. Et c'est l'écologie qui fait donc figure de priorité pour la liste emmenée par Nathalie Loiseau. Accusée d'avoir été trop timide sur l'environnement à la sortie du grand débat, Emmanuel Macron et sa liste Renaissance changent de braquet, Yael Gauz, et entrent en concurrence avec une offre déjà très étroffée à gauche.
Dans sa lettre aux Européens, Emmanuel Macron insistait sur les frontières. Deux mois plus tard, sa profession de foi parle d'abord de transition écologique et solidaire, avec un plan d'investissement de 1000 milliards d'euros sur 5 ans, proposition qui va de pair avec la création d'une banque pour le climat. Un créneau sur lequel les macronistes sont loin d'être isolés. Réconcilier la fin du monde et la fin du mois, c'est le cœur du programme PS Place Publique, via un budget climat et biodiversité financé en taxant les bénéfices des sociétés. Yannick Jadot est sur la même ligne, mais pour Europe Écologie Les Verts, rien ne sera possible sans l'adoption au préalable d'un traité environnemental européen. Il faut donner des droits à la nature, ce que proposent aussi les Insoumis, avec la création d'un tribunal pour juger les écocides, les crimes écologiques. Impossible d'être exhaustif, tellement les listes à gauche se font concurrence sur cette thématique, mais l'alignement de La République En Marche est révélateur. Effet rattrapage et volonté de ramener au bercail les électeurs de gauche de 2017, tenter d'aller voir ailleurs.
À 17 jours du scrutin et en ce 9 mai, journée de l'Europe, quoi de plus parlant que les bébés Erasmus? Le programme d'échange universitaire créé il y a 32 ans est l'une des grandes réussites de l'Union. 2,5 millions d'étudiants en ont bénéficié. Certains y ont trouvé l'amour et même fondé une famille. Quelle vision de l'Europe ont ces enfants Erasmus dont certains s'apprêtent à voter pour la première fois? Delphine Evenou a posé la question à Nathan, un jeune franco-allemand.
La mère de Nathan, allemande, est venue faire son Erasmus à Montpellier en 93, y a rencontré Pascal et le couple a eu 4 enfants. Tous vivent aujourd'hui à Munich. Nathan, 19 ans, est l'aîné de ses bébés Erasmus.
Ça m'a aidé dans beaucoup de choses pour mon ouverture d'esprit. J'arrive beaucoup plus simplement à pouvoir voyager. Je suis relativement à l'aise à aller vers des personnes qui ne parlent pas vraiment ma langue. J'ai un regard, en fait, je pense, un peu différent. J'essaye de prendre les bons côtés de chaque culture pour en faire le meilleur mélange possible.
Pour le jeune homme, les vraies différences culturelles se jouent à l'échelle mondiale. Alors il se définit avant tout comme européen.
Dû au fait que nos frontières ne sont pas vraiment fermées en quelque sorte, je me sens libre d'aller dans le pays qui me chante. Et donc du coup, j'ai la possibilité d'y vivre ou même peut-être d'y travailler ou juste d'y partir en vacances. Donc je me sens rarement vraiment étranger dans un pays membre de l'Union européenne.
Nathan observe aussi dubitatif la montée de l'euroscepticisme.
Bien sûr, je vois aussi très bien que l'Europe ou l'Union européenne ou la politique de l'Union européenne peut poser problème, mais sortir de l'Union européenne est, je pense, extrêmement dommage. Même si elle est peut-être dans une mauvaise passe, il faut absolument la soutenir et éventuellement la réformer pour la faire encore mieux.
Lui votera pour la première fois aux européennes le 26 mai avec enthousiasme.
Quant aux dirigeants de l'Union européenne, ils se retrouvent à Sibiu en Roumanie sans le Royaume-Uni pour plancher sur l'après-Brexit.
Il est 7h08, Donald Trump accentue Agnès, encore la pression économique sur l'Iran.
Avec de nouvelles sanctions annoncées hier soir lors d'un meeting en Floride, un an après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, le régime de Téhéran a annoncé hier qu'il allait passer outre certains de ses engagements. La réaction du président américain ne s'est pas fait attendre, Grégory Phillips.
Après avoir visé les banques iraniennes et le pétrole, les États-Unis ont donc annoncé ces nouvelles sanctions qui concernent cette fois les secteurs du fer, de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. Les pays, entreprises ou entités qui achèteraient des métaux industriels en provenance d'Iran seront immédiatement punis. La décision unilatérale vise à étouffer encore un peu plus l'économie iranienne, même si hier soir, en meeting à Panama City en Floride, Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait envisager un nouvel accord pour remplacer celui de 2015.
Je me suis vu dans l'obligation d'autoriser ces nouvelles sanctions sur l'acier, l'aluminium et le cuivre iranien. Parce que j'espère pouvoir un jour, mais peut-être que ça n'arrivera jamais, probablement que ça n'arrivera pas, m'asseoir avec eux et travailler un accord plus juste. On ne veut attaquer personne, on ne veut pas qu'ils aient l'arme nucléaire, c'est tout.
Dans le même temps, les États-Unis montrent les muscles, envoyant un porte-avions et plusieurs bombardiers dans le golfe Persique. La stratégie reste la même, celle de la pression maximale, sans que l'on sache vraiment si la volonté de l'administration américaine est, comme l'écrivait hier Trump, d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, ou bien d'accentuer encore un peu plus cette pression, en espérant un changement de régime à Téhéran. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Tension également entre les États-Unis et la Chine. Même si les deux puissances semblent vouloir aujourd'hui parvenir à un accord commercial, les négociations reprennent aujourd'hui à Washington. C'est l'histoire d'une petite marque française qui se voulait exemplaire. La révolution textile, lancée il y a 5 ans, avait pour ambition de proposer des vêtements écolo made in France. La créatrice de la marque vient d'annoncer qu'elle mettait la clé sous la porte. Elle s'est confiée à Julie Pietri.
Elle plaisante en disant qu'il fallait ça, la faim, l'échec, pour que les commandes affluent en quelques jours. Myriam Underwood a lancé la révolution textile après des années comme acheteuse et chef de produit dans la mode.
Quand j'ai commencé à faire des recherches sur Internet pour trouver des vêtements qui étaient fabriqués localement, bio, traçables, là je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien du tout.
Elle choisit alors le lin comme matière et s'impose de payer correctement ses fournisseurs. Mais le niveau d'exigence fait grimper le prix de vente et l'argument du « acheter beaucoup moins mais beaucoup mieux » ne passe pas. Elle doit donc se résoudre à produire en partie au Portugal avant de renoncer. En 5 ans, elle ne s'est pas payée de salaire une seule fois.
Je voulais vraiment créer une marque qui soit parfaite. Je me rends compte que j'ai été beaucoup trop exigeante en fait. Et je me suis rendu compte que le gros problème, c'était aussi au niveau du prix. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout prêt à payer 150 euros pour un gros pull. Et il y a beaucoup de gens qui sont très écolos, qui pensent que le modèle le plus vertueux, ça va être d'acheter en seconde main.
La suite n'est pas encore très claire pour cette entrepreneuse de 42 ans qui voit d'autres marques se créer et s'interroge sur ses propres erreurs. De sa collection en fin de vie, ne reste aujourd'hui que 250 pièces environ. Les achats soutiens de ces derniers jours lui ont au moins permis de combler ses dettes.
Un succès en revanche pour les produits alimentaires labellisés commerce équitable dont les ventes ont progressé de 22% en France l'an dernier. Le directeur général de l'organisme de certification Max Avelard évoque même une année exceptionnelle. Les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsable avec la volonté de réduire le gaspillage alimentaire.
7h12, tout est donc possible dans cette Ligue des Champions.
Encore un scénario fou hier soir pour la demi-finale retour entre Tottenham et l'Ajax Amsterdam. Les Néerlandais s'étaient imposés 1-0 à l'aller en Angleterre, mais se sont effondrés hier soir chez eux après un triplé de Lucas Moura, dont le dernier but inscrit dans les arrêts de jeu. Score final 3-2 et des supporters anglais fous de joie hier dans le port d'Amsterdam. Jean-Pierre Bimou.
Ils n'y croyaient plus et se voyaient éliminés, mais comme leurs compatriotes de Liverpool 24 heures plus tôt, les supporters qui chantent au cœur de la nuit d'Amsterdam viennent d'assister à un exploit qui fera date. Oliver fait partie des supporters les plus endurcis de Tottenham et pourtant... Je ne pensais pas que c'était possible dans cette deuxième mi-temps. 3 buts comme ça, je ne pouvais plus dire un mot, je n'ai jamais connu une chose pareille, je n'ai pas arrêté de pleurer, je croyais que tout était fini. Tottenham a tout simplement suivi l'exemple de Liverpool, explique ce jeune supporter anglais qui a vu les deux demi-finale à la télé.
C'était tellement intense. Avant le match, je ne pensais pas que Tottenham pourrait y arriver. C'est le genre de choses que personne n'attend, comme quand Liverpool a battu Barcelone.
Est-ce vraiment un hasard? Le championnat anglais, poursuit Fever, est devenu le meilleur du monde.
Le foot anglais, c'est-à-dire la première ligue, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Ça joue dur et vite, avec beaucoup de concurrence entre les clubs. Ce n'est pas de la chance.
Dans le port d'Amsterdam, il y a désormais des Anglais qui chantent jusqu'au bout de la nuit. Amsterdam, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
Des Anglais qui n'ont pas fini de chanter. Donc avec cette finale Tottenham-Liverpool, ce sera le 1er juin prochain en terre espagnole à Madrid.
Merci Agnès Soubiran.